à tous. Alors, pour rebondir, je crois que mes collègues du réseau évangélique suisse sont d'accord en tant qu'administrateur. Voilà, bonjour à chacun, chacune. Merci pour c'est une joie, un privilège d'être avec vous, de vivre ce temps de culte, ce temps avec Dieu ensemble. Et je me réjouis vraiment de passer ce moment avec chacun de vous ce matin. Et pour compléter un peu ce que Roland vient de partager, j'aimerais vous présenter un peu Stop Pauvreté. Avant de passer sur le cœur du message, en quelques mots. Donc, Stop Pauvreté, c'est une campagne de sensibilisation auprès des chrétiens en particulier, pour que les chrétiens soient, comme tu l'as dit, Roland, en répétant un peu mes mots, se mettent en mouvement auprès des autres, en se souciant en particulier, le focus en particulier de Stop Pauvreté, c'est sur les pays du Sud. Et Stop Pauvreté appartient en fait à la campagne, à la fédération des ONG évangéliques qui s'appelle Interaction. Et qui regroupe ces 37 ONG évangéliques en Suisse, et qui ont, eux, des projets dans les pays du Sud. Et Stop Pauvreté se concentre sur la sensibilisation, sur rendre attentifs les chrétiens sur ces besoins-là. Interaction est aussi un groupe de travail du réseau évangélique suisse qui nous connecte vraiment dans ce milieu évangélique en Suisse romande. Stop Pauvreté se base sur ce verset de Michée 6,8, qui est un peu la mission de Stop Pauvreté. Ce verset qui est puissant, qui nous dit « On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est un appel à l'action et c'est un appel à l'action que Stop Pauvreté veut faire aussi aux chrétiens. Tout concrètement, ce que Stop Pauvreté fait, c'est qu'on mène différents projets, que ce soit des publications, que ce soit des livres pour sensibiliser les chrétiens. On a des projets en lien aussi avec l'écologie. Quel est le lien entre l'écologie et la foi, notamment avec le projet Éco-Église. Et puis d'autres projets, comme ce projet de Un dimanche pour son prochain, qui met à disposition des ressources pour les églises, pour vivre un dimanche mis de côté sur les questions, sur cette thématique d'Un dimanche pour son prochain. Donc, Un dimanche pour son prochain, vous voyez différentes organisations qui sont partenaires de ce projet et dans lequel ce temps de culte ce matin s'inscrit. Donc, il y a aussi le SME que vous connaissez bien ici, qui fait partie aussi de ce projet. Voilà pour les quelques mots de présentation de Stop Pauvreté. Le thème de ce culte ce matin, de ce message que j'aimerais apporter, que j'ai à cœur, c'est le lien entre l'enfance et la pauvreté. Alors vous direz, c'est certainement pas un thème qu'on entend souvent dans un temps de culte. Et pourtant, dans la Bible, il y a des récits qui nous parlent d'enfants qui sont face à la pauvreté. C'est quelque chose où tout de suite, quand on parle de ces deux mots, qu'on les met côte à côte, on se dit, mais c'est injuste, c'est quelque chose qui ne va pas, on a envie de crier, de dire ça, c'est pas correct. Que des enfants qui sont finalement innocents soient face à la pauvreté. Et avant de lire un récit qui va nous plonger dans cette thématique, j'aimerais juste prendre un peu de recul, puis regardez l'actualité, regardez aujourd'hui quelques chiffres, vous présenter quelques éléments qui montrent quelle est la situation des enfants aujourd'hui dans le monde. Avant l'arrivée du Covid, on estimait déjà à 365 millions le nombre d'enfants vivant dans l'extrême pauvreté. Il a repris l'ascension. Baissait continuellement depuis les années 90, et avec l'arrivée du Covid il y a 2 ans, il a repris l'ascenseur. La réalité, elle est cruelle. 5 enfants meurent chaque minute avant même d'avoir atteint 1 mois de vie. Ceci pour 2 raisons principales, la malnutrition et le manque de soins ou d'hygiène. Alors simplement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par la communauté internationale pour contrer cela ? Il y a 2 outils internationaux qui ont été mis en place, que j'aimerais simplement rapidement évoquer. Il y a la... Ah, ça va dans l'autre sens. Voilà, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été mise en place en 1989, qui simplement évoque les droits inaliénables qu'on veut donner aux enfants. C'est des droits qui nous paraissent tellement simples, mais ça a été vraiment une avancée de pouvoir mettre en œuvre cette convention et de pouvoir dire aux enfants, vous avez ces droits-là, et que tous puissent reconnaître ces droits de jouer, droit à la liberté d'information, droit d'avoir une famille, etc. Il y a aussi ce deuxième outil, les ODD, les Objectifs de Développement Durable, qui sont plus récents, qui ont été établis en 2015, avec un objectif en 2030 d'atteindre ces 17 objectifs qui ont chacun des cibles et qui ne touchent pas directement les enfants, mais indirectement vont vraiment aider aussi les enfants à avancer. Et voilà, vous avez les différents objectifs, pas de pauvreté, faim zéro, etc. Et qui sont mis en œuvre par la communauté internationale, mais dont l'ensemble de la société est appelée pour se mettre en mouvement. Et j'aimerais simplement évoquer aussi que Voilà, ces 37 organisations avec lesquelles Interaction, Stop Pauvreté, on travaille, ont aussi des projets dans ce sens-là. J'ai mis à disposition simplement cette brochure God's Global Goals qui présente ces ODD et puis qui présente aussi des organisations évangéliques suisses qui travaillent dans cet objectif-là. Et puis, on a aussi listé dans ce magazine, notre magazine annuel, les différents projets de ces organisations qui sont dans les pays du Sud pour œuvrer en faveur des enfants. Voilà, je m'arrête là sur cette petite présentation de la situation des enfants. Mais quand on évoque ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça évoque vraiment cette impression que, ce fait que notre monde est brisé, ce fait qu'il y a une injustice, ce fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans ce monde en particulier quand on regarde les enfants. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ce thème de la pauvreté et de l'enfance et regarder ensemble où est-ce qu'il y a de l'espoir. Qu'est-ce que nous, on est appelés à faire en tant qu'être humain tout simplement, mais aussi en tant que chrétien, encore plus en tant que disciple de Christ. Voilà, avant d'ouvrir la parole, j'aimerais vous inviter simplement à prier, qu'on puisse disposer nos cœurs en ouvrant la parole de Dieu et que nos cœurs soient réceptifs à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce partage, Seigneur, ce matin où on peut ouvrir ta parole, on peut lire ce que tu as, ce que tu nous communiques, Seigneur, que vraiment nos cœurs soient ouverts à ta parole ce matin. Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs. Merci pour ta parole. Merci parce que tu, face à ces situations de désespoir que l'on voit autour de nous, on voit aussi l'actualité, toutes ces choses. Seigneur, tu restes le même. Tu es aussi un roc solide sur lequel on veut se confier. On veut s'approcher de toi. On veut que tu t'entendre aussi ce matin, Seigneur. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, ou sinon de suivre sur le slide. Dans l'Ancien Testament, au chapitre 4 du deuxième livre des Rois, au verset 1 à 7, où je vous invite à lire, découvrir, si vous ne la connaissez pas, ce récit extraordinaire qui se situe donc dans le livre des deux Rois. Ah, le micro. D'accord. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentrée, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va, vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Ce récit nous montre deux enfants qui sont menacés directement par la pauvreté, menacés par une certaine injustice. Ils risquent d'être vendus en esclaves parce que leurs parents avaient contracté une dette. Leur maman et leur papa, qui n'avaient rien fait de faux, ils avaient contracté une dette, l'histoire ne nous dit pas le pourquoi, mais finalement, la situation de la vie a poussé à entraîner la mort du papa et la mère qui devient veuve est incapable de rembourser cette dette. Et ces enfants se retrouvent face à cette situation catastrophique d'être vendu, d'être rendu comme esclave, c'est quelque chose qui se faisait dans la société, ce n'était pas forcément d'être esclave pour toute la vie, mais pour un temps, pour rembourser cette dette. Cette veuve, elle n'avait rien fait de faux, elle n'avait rien fait forcément de faux, mais la ville, la situation de la ville l'a amenée là. Et cette situation, à nos yeux, tout de suite, on a envie de crier à l'injustice, on a envie de dire, mais pourquoi ces enfants se retrouvent là? Ils n'ont aucune raison d'être à ce niveau-là. Et pour qu'un enfant soit pauvre, il y a simplement trois raisons qui les poussent à la pauvreté. C'est soit que leur famille est pauvre, soit que leur famille le devient et qu'ils le sont coupés de cette famille, soit que finalement, ils n'ont plus de famille. Et c'est là où l'enfant, pour moi, montre cette injustice, enfin cette innocence de l'enfant, c'est que finalement, où qu'il soit, c'est lié à la situation de leur enfant. Et ces enfants, on se demande, mais pourquoi eux vivent cela? Pourquoi moi Je vis peut-être dans une situation où en tant qu'enfant, j'ai été béni, j'ai eu tout ce qui m'a fallu. Et on se On a envie de crier à cette injustice. Mais on voit que dans cette histoire que Dieu va agir, Dieu ne va pas rester silencieux. On est clairement dans une situation où Dieu va agir de façon miraculeuse. Et c'est magnifique de le voir. Cette femme ne va pas perdre courage. Et on voit qu'elle a clairement tout essayé dans cette histoire. Elle a certainement, avant d'aller voir le prophète Élisée, elle a certainement regardé ses économies, essayé de trouver un travail, essayé de faire ce qu'il fallait pour répondre à cette situation de crise. Et finalement, elle va crier à Élisée, elle va venir crier à Dieu plein de fois, de dire, mais tu vois, mon mari, il t'a suivi, il a suivi, il faisait partie de la communauté des prophètes. On a fait tout ce qu'il fallait, mais Dieu nous a abandonnés. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Et on voit qu'il s'agit d'un acte miraculeux, que cette femme a une foi qui est exemplaire, ainsi que ses enfants. Et ce que j'aimerais souligner, c'est cette mise en mouvement de cette femme qui ne va pas rester les bras croisés, mais qui va se mettre en mouvement et qui va crier à Dieu, qui va montrer cette foi. Et j'aimerais aussi souligner, dans la fin du récit, ce verset 7 qui dit « Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. » Dieu offre une dignité. Il ne va pas seulement répondre à la situation de crise actuelle, mais il va aller voir au-delà. Il va aller donner, il va entourer cette famille dans son ensemble. Dieu, nous pouvons lui faire confiance dans toutes les situations, dans les situations de crise, dans les situations de paix. Cette situation montre que Dieu prend soin de ses enfants. Il y a une grande dépendance et une humilité de la part de cette femme d'admettre, de réaliser... Pardon, je m'excuse, je suis un petit peu fatigué. Non, mais ce que j'aimerais... J'ai la gorge très sèche. Je peux prendre juste un peu d'eau. J'aimerais appuyer le fait que cette femme s'est mise en mouvement. Dieu a pris ce qu'elle avait, elle l'a mis à disposition et elle a été rendue co-actrice de ce que Dieu a fait. Quand on voit ce récit, quand on lit ce récit, moi, ma première réaction, c'était un peu de me dire, mais finalement, pourquoi Dieu a utilisé cette femme? Dieu aurait pu venir avec une liasse d'argent et puis poser ça sur la table de cette femme. Et pourtant, Dieu n'a pas fait ça. Il a mis la foi de cette femme en action. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as? Élisée a demandé à cette femme, mais qu'est-ce que tu as? Et elle a répondu, ben voilà, moi, j'ai mes deux pains et mes deux poissons, mes cinq pains et mes deux poissons, et je les mets à disposition. Elle était co-actrice. Dieu a voulu... utiliser cette femme, et elle a voulu la mettre en mouvement également. Voilà. J'aimerais qu'on puisse faire un petit saut en avant dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre, et ouvrir une parenthèse qui va nous aider aussi à comprendre cette notion de générosité que j'aimerais amener. Dans 2 Corinthiens au chapitre 8, versets 13 et 15, Paul s'adresse aux Corinthiens pour leur demander de venir en aide aux chrétiens de Judée qui sont pauvres. Et j'aimerais lire ce court paragraphe, ces courts versets. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre en principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Un premier principe que j'aimerais souligner en lisant ça, c'est que les chrétiens de Corinthe ne devaient pas se mettre dans une situation de détresse pour venir en aide aux autres, mais qu'il y a cette notion d'égalité, cette notion d'équité qui est dans la pensée de Dieu. Que si Dieu nous bénit d'abondance, alors il nous demande aussi de partager cette abondance. Ici, dans le cas présent, d'une abondance qui est simplement financière, mais je pense que ça va bien au-delà aussi de cette question financière où Dieu nous demande de bénir au-delà aussi, et pas uniquement financièrement. Et la pensée de Dieu est que les ressources puissent être distribuées, réparties de façon équitable. Et on voit que dans cette situation-là, certains chrétiens sont dans l'abondance, d'autres ne le sont pas. Et clairement, il y a une inégalité qui est là. Et dans notre situation, dans notre monde actuel, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des inégalités. On le sait très bien entre nous, dans l'Église, mais aussi dans notre société, dans notre village, dans notre ville, dans notre monde. Et j'aimerais simplement faire aussi une parenthèse ici, En signalant un nouveau rapport qui est sorti en fait en janvier, sur lequel je suis tombé, qui a été émis par Oxfam, une ONG, dont le titre un petit peu provocateur dit « Les inégalités tuent ». Et simplement en vous citant ces quelques infographies, j'aimerais simplement les lire. La richesse des 10 hommes les plus riches du monde a tout doublé alors que les revenus de 99% de l'humanité sont moins importants que prévu à cause du Covid. Ou encore 252 hommes se partagent plus de richesses que le milliard de filles et de femmes que vivent en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes réunies. On voit clairement qu'il y a des inégalités dans notre monde aujourd'hui. Et ce passage nous montre cette générosité que Dieu demande, cette demande que nos ressources que nous avons, nous puissions les partager au-delà. Et quand on entend l'actualité avec l'Ukraine, voilà, moi j'ai préparé ce message un petit peu avant cette semaine aussi, et de réaliser, mais combien c'est actuel, de réaliser que ce que nous avons, Dieu nous demande que ces richesses puissent être partagées. Et je veux encore souligner que ce n'est pas seulement cette richesse financière. Dieu nous donne la bénédiction de le connaître. Cette bénédiction de le connaître, on veut aussi la partager. On veut aussi partager autour de nous cette relation qu'on connaît, ce privilège de connaître Dieu, mais aussi certaines choses des fois plus simples entre guillemets, d'avoir un foyer uni. Comment est-ce que je peux bénir avec mon foyer s'il est uni, de pouvoir être hospitalier, de pouvoir avoir un bon tissu de relation, de bénir les personnes qui sont autour de moi par leur regard. Et en pensant particulièrement aux enfants aussi, quelle est mon attitude vis-à-vis des enfants? Est-ce que je bénis les enfants qui sont autour de moi, de prendre du temps avec eux, de jouer avec eux, d'aller vers eux, d'être à son écoute? Et encore dans ce passage de 2 Corinthiens, Paul fait référence à l'épisode de la manne, un épisode miraculeux, et je trouve surprenant qu'il cite un passage d'un miracle que Dieu a fait dans le désert du Sinaï avec le peuple israélite pour appeler les chrétiens à être généreux. Parce qu'à nouveau, pourquoi est-ce que Dieu a besoin des chrétiens? Il aurait très bien pu faire tout seul. Il aurait très bien pu prendre soin des chrétiens de Judée. Mais pourtant, au même titre que dans le récit, il demande aux chrétiens, il demande aux personnes de se mettre en mouvement, de venir apporter ce que l'on a. Et pour moi, c'est vraiment un appel que je veux vous faire, de réaliser, mais Dieu, il peut faire sans nous. Mais pourtant, il veut que nous soyons coacteurs avec lui. Il veut que nous allions avec lui en mouvement pour pouvoir bénir ceux qui nous entourent, pour pouvoir partager ce que l'on a, ce que lui nous a donné, ce que lui nous a confié et qui lui appartiennent, qui ne nous appartiennent finalement pas, mais qui lui appartiennent à lui et de pouvoir bénir autour de nous. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, versets 9 et 10. C'est vraiment un appel que je souhaite vous faire de se mettre en mouvement, de pouvoir partager ces bénédictions. Et voilà, c'est un sujet tellement d'actualité, je réalise avec ce qui se passe en Ukraine, et c'est beau de voir les chrétiens, en tout cas là, je vois sur les réseaux, etc., de voir les chrétiens qui se mettent en mouvement dans la prière, une prière qui est efficace, nous le savons, dans des aides toutes pratiques. Et voilà, je nous encourage à continuer à être dans cette générosité. J'aimerais maintenant prendre quelques éléments de ce récit pour soulever quelques bonnes pratiques que l'on voit dans ce récit qui peuvent s'appliquer dans notre vie de tous les jours, dans la façon dont nous pouvons aider notre prochain. Et ce premier point, c'est un peu de se poser la question, alors est-ce qu'on doit aider au près ou au loin? Et souvent on a ces débats de savoir, oui mais il faut aider d'abord ici chez nous, avant d'aller aider loin. Et je pense qu'en fait il n'y a pas de débat à avoir. Là où Dieu place un cœur qui soit généreux, où Dieu vous touche dans une situation, alors soyez généreux. Bénissez là où Dieu vous appelle à bénir, que ce soit au près ou au loin. C'est intéressant de voir que dans 1 Roi 17, le prédécesseur d'Élisée, Élie, s'est trouvé dans le pays de Sidon, dans la même situation où il arrive dans le pays, il voit une femme avec son fils, une veuve également, puis qui lui dit, cette veuve lui dit, mais nous, je prépare mon dernier repas pour mon fils et moi avant de mourir parce qu'on n'a plus de ressources. Et Dieu va faire de la même façon dans ce récit, un miracle pour que cette veuve et ce fils vivent. Et finalement, que ce soit au près ou au loin, Dieu, il agit. Et que ce soit au près ou au loin, Dieu, il nous demande de venir au secours, de venir aider les personnes que l'on peut et les personnes que Dieu nous appelle à venir en aide. Partir des ressources que l'on a, on y a évoqué déjà tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir que les voisins, que la veuve part du petit reste qu'elle a. les voisins sont mis à contribution pour donner des outres, des récipients qu'ils ont, qui n'ont pas de valeur en soi. Mais Dieu va prendre ce que les gens ont, ce que nous avons. Et ce qu'il nous a confié, il nous demande à ce que ce soit un vecteur de multiplication pour lui. Et c'est intéressant aussi de voir, pour moi, dans les questions de développement, dans les organisations qui aident dans les pays du Sud, de réaliser que c'est un peu le même principe. Souvent, dans les années passées, et encore aujourd'hui, malheureusement, on vient avec nos gros souliers d'Européens pour dire aux pays du Sud ou à d'autres comment il faut faire. Et aussi, nous, quand on va aider une famille peut-être proche de la nôtre, on va leur dire, mais tu vois, il faut faire comme ça. Mais finalement, c'est aussi de réaliser, mais qu'est-ce que Dieu a donné à ces familles-là? Qu'est-ce que Dieu a donné à ces pays, à ces communautés? Et faire fructifier cela, plutôt que toujours venir à nous en sachant ce qu'il faut faire et puis en venant mettre ça en œuvre. Voilà, partir des ressources que l'on a, que Dieu a déjà confiées, et les faire fructifier, que Dieu puisse fructifier ce qu'il a déjà donné et que nous puissions mettre nous-mêmes à disposition. Cette notion aussi de solidarité de groupe, ici on voit que dans notre récit, c'est Dieu a demandé à cette femme d'agir, mais il y a eu aussi tout ce voisinage qui s'est mis en mouvement. Et dans certaines situations, il y a besoin d'une personne qui aide, une personne qui vienne au secours, et puis des fois, il faut que toute une communauté fasse un petit pas, fasse une petite aide pour sortir une situation de crise, pour avoir quelque chose de stable. Donc ne méprisons pas les petits gestes et ayons un regard attentif sur les besoins qu'il y a autour de nous, et parfois par un petit geste, un sourire, un regard, ça peut suffire pour aider, pour bénir. Et cette notion aussi d'aider l'ensemble de la famille, l'ensemble de la communauté, de ne pas se restreindre à des fois à une petite situation, mais de voir aussi plus loin, et en particulier auprès des enfants. Combien de fois, en étant un enfant, en étant une bénédiction pour les enfants, je pense aussi à tout le ministère que vous pouvez avoir auprès des enfants dans votre église, en aidant un enfant, vous aidez une famille. Et des fois aussi, dans le partage de l'évangile auprès d'un enfant, on voit que ça ouvre des portes dans le partage de l'évangile à toute une famille, à toute une communauté. Et enfin, pensez aux moyens, au long terme. Dieu a donné une dignité à cette famille au verset 7. Je suis personnellement époustouflé de voir, impressionné de voir dans ce récit que Dieu ne va pas répondre uniquement à la situation de crise, mais il va leur donner une dignité dans la durée. Au verset 7, Dieu leur donne vraiment plus que ce qu'il y a le besoin. C'est une bénédiction qui déborde et qui va permettre aussi peut-être certainement à cette famille de déborder aussi une bénédiction au-delà. Eh bien, voilà, pensons pas seulement aux situations de crise, mais pensons aussi à stabiliser ces situations-là. Voilà, la dernière partie de ce message ce matin, j'aimerais qu'on puisse se poser en fait cette question: quelle est notre motivation sincère pour aider notre prochain? Qu'est-ce qui nous motive derrière cela? Pourquoi aider notre prochain? Pourquoi venir en son aide? Et le premier point pour moi, c'est de réaliser que notre regard doit être changé. Lorsqu'on accepte Christ, lorsque l'on est un disciple de Christ, lorsque nous sommes transformés par sa grâce, on apprend à voir la réalité telle qu'elle est. Et l'une des choses qui est appelée à changer en nous, c'est le regard que nous portons sur l'autre. C'est avoir un regard qui soit compatissant, un regard de réaliser que la personne devant nous, que notre voisin, que la personne au loin, a été créée simplement à l'image de Dieu. Que cette personne-là a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et si déjà on a un regard tel que celui-ci qui change, eh bien je pense qu'il y a déjà une motivation qui est là, qui est énorme. Si l'on reconnaît cela, combien de fois la parole nous exhorte, à prendre soin de la veuve, du pauvre, de l'orphelin, de l'opprimé, du plus vulnérable. Dans Proverbe 31, il est écrit « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer. Pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » On est appelé à se mettre en mouvement, on est appelé à considérer l'autre, celui qui est dans la fragilité, comme Roland disait tout à l'heure, à se soucier de lui, à venir à lui apporter notre aide. Dieu nous appelle à le faire. Et aussi dans cette notion de changement de regard, de réaliser ces paroles qui sont tellement fortes, que celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Lorsque l'on fait cela aux plus petits qui sont autour de nous, ce n'est pas seulement à cette personne-là qu'on fait cela, mais bien entendu, on le fait aussi à Christ, on le fait à Dieu, on accueille Christ lorsqu'on accueille ces personnes-là. Et ça fait référence aussi pour moi à ce passage de Matthieu 25, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits-enfants de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois où on vient en aide, où on bénit les personnes qui nous entourent, c'est à Dieu lui-même que nous le faisons. Dieu s'identifie aux enfants, s'identifie aux plus faibles, aux plus vulnérables. Et si nous les accueillons, pardon, c'est lui que nous accueillons. Je bois. Avant de dérailler. Enfin, Jésus, c'est l'exemple ultime que nous voulons bien entendu suivre en tant que disciples. Et quand on lit ce verset de 2 Corinthiens, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Jésus était Dieu de toute éternité. Il vivait dans le bonheur, il ne manquait de rien. Il connaissait la présence de Dieu, le Père, en direct, sans obstacle. Alors pourquoi ? Pourquoi lui qui était dans l'abondance, dans la perfection, il est venu, il s'est fait pauvre parmi les pauvres. J'ai été personnellement à nouveau touché dans la dernière période de Noël, d'à nouveau me réaliser combien en fait Jésus est venu dans le dénouement, dans une situation tellement terrible, de la pauvreté, dans une étape où il fait froid, où ça sent pas bon, où il y a des animaux. C'est le pire qui pourrait finalement arriver, je pense, pour une mère, de donner naissance à un enfant dans une situation comme ça. Et pourtant, elle a donné naissance à Jésus dans ce lieu-là, dans le froid, dans l'instabilité, l'insécurité. Il est devenu un petit enfant vulnérable, couché dans la paille. Lorsqu'il était plus grand, il allait sur les routes, sans lieu pour dormir, sans lieu où poser sa tête. Matthieu 8, verset 20. Et il est venu en aide, pourtant, à tous ceux qui étaient sur sa route. Et je suis toujours ébloui de voir combien Christ ne s'est pas toujours uniquement soucié du bien-être spirituel des uns et des autres, mais il s'est soucié de l'ensemble de la personne, de l'ensemble des personnes qu'il rencontrait, de leurs besoins tout simples, physiques. Et pour moi, c'est un message finalement de réaliser, mais nous sommes appelés, si nous voulons le suivre, à nous soucier de l'ensemble de la personne qui est devant nous, l'ensemble de la personne de notre voisin, pas seulement de son bien-être spirituel, bien que c'est essentiel et c'est important de le faire. Mais il nous demande de nous soucier de son ensemble, de la personne. Combien de fois les évangiles nous relatent Jésus ému de compassion ? Ayons-nous aussi ce sentiment de compassion, cette compassion que lorsque l'on voit une personne dans l'allégresse, dans le besoin, ayons de la compassion pour cette personne-là. Jésus s'est laissé mépriser, rejeter, battre et même tuer pour nous. Il s'est donné lui-même pour que nous connaissions Dieu et il a fait tout cela gratuitement. Et il nous invite à l'imiter, à le suivre, à entrer dans cette action de se donner soi-même pour bénir les personnes qui sont autour de nous. Il nous demande de partager, de multiplier ces bénédictions qu'il nous a confiées. Et finalement, c'est vrai que lorsque nous nous retrouverons face à lui, qu'est-ce que nous aurons à lui dire ? Est-ce que nous pourrons lui dire que nous avons multiplié et béni les choses qu'il nous a confiées ou les avons-nous gardées seulement pour nous ? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, que nous soyons motivés par l'amour les uns pour les autres dans notre marche quotidienne avec Christ. Que nous soyons encouragés, que nous soyons tous encouragés à marcher dans ce regard que nous voulons aussi porter auprès des autres, un regard qui soit transformé, de réaliser que la personne qui nous entoure, Dieu l'aime dans son entier et que nous puissions aussi nous l'aimer dans son entier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous inspire tous à avancer dans cette façon, dans cet appel qui nous fait de pouvoir aimer notre prochain entièrement. Merci pour votre écoute et désolé pour les petits essoufflements.